Chapitre 17e. Cette lutte donna du courage à Hélène. Évidemment, si au lieu de fuir le danger comme elle l'avait toujours fait, elle avait bravement marché dessus, elle aurait depuis longtemps conquis sa liberté et assuré sa sécurité. C'était là un enseignement qui devait lui profiter pour l'avenir, c'est-à-dire que si le fils, au lieu de s'en tenir à ses cavalcades, voulait parler un jour, elle devait non tâcher de lui échapper, mais lui répondre comme elle avait répondu au père. Cette résolution prise, elle changea ses habitudes et redevint ce qu'elle était avant l'arrivée de M. de Courtomer et de Guiscard au château. Elle osa se promener seule dans le jardin. Elle osa traverser les vestibules ou monter les escaliers sans courir et sans regarder craintivement à droite et à gauche comme une voleuse surprise en flagrant délit. Enfin, elle osa répondre lorsqu'on l'interrogea et suivre une conversation sans chercher à se dérober au premier mot. « Je vous aime mieux comme cela, » lui dit Adélaïde. Mais ce qui devait arriver se produisit. Si Adélaïde avait remarqué ce changement, Guiscard l'avait vu aussi, et faisant plus que de le voir, il se l'était expliqué. La banquette irlandaise avait produit son effet. Cela était obligé. Comment Hélène n'aurait-elle pas été sensible à son habileté, à son élégance, à son intrépidité, à son savoir de jockey, à son chic? Naturellement, elle avait été prise au cœur. Jusque-là, la timidité de son caractère et de son âge, aussi bien que la réserve d'Hélène, lui avait fermé la bouche. Il l'aimait, mais elle ne l'aimait point. Alors, à quoi bon risquer un aveu qui serait mal accueilli? Intrépide devant un obstacle à franchir, il se sentait lâche devant quelques mots à prononcer, car ce n'était point dans sa tête que se trouvait sa bravoure. De peur de tout compromettre par trop de hâte, mieux valait attendre. Il la toucherait, elle finirait par ouvrir les yeux, elle le verrait, et alors... Il l'avait donc attendu, parlant des yeux, mais se taisant des lèvres et se complaisant même dans cette espérance du lendemain si chère aux timides. Demain, dans telle circonstance, le hasard. Et voilà qu'enfin cette espérance se réalisait. Voilà qu'elle l'avait vue, voilà qu'elle avait ouvert ses yeux et son esprit, voilà qu'elle avait été touchée. Il n'avait qu'à parler. Bien évidemment, elle était disposée à l'écouter. Il ne devait pas se faire attendre trop longtemps, ou bien il n'était pas un homme. Et justement, parce que sous bien des rapports, il n'était encore qu'un grand enfant, il tenait beaucoup à ce qu'on le prît pour un homme, qui avait l'expérience du monde et de la vie. Quand on était Guiscard, on possédait tout par droit de naissance, sans avoir pris la peine de rien acquérir. Il devait donc, maintenant, ne pas hésiter à se déclarer. Cependant, il hésita encore. Pendant plusieurs jours, il balança le comment. Il eût préféré écrire, car elle avait un regard et un port de tête qui, malgré tout, l'intimidaient. Malheureusement, il ne se sentait pas fort, la plume à la main. Il y avait un tas de mots qui l'embarrassaient et dont il était obligé de tronquer la fin, les deux ou trois dernières lettres, qui n'ont évidemment aucune utilité pour ce qu'on veut dire et qui ne sont là que pour l'usage. Un sot usage, vraiment, aussi gênant que ridicule. Avec ses amis, il s'affranchissait de cet usage, ayant adopté une écriture qui lui permettait de commencer ses mots en grosses lettres qui allaient en diminuant, si bien que les dernières étaient imperceptibles. Mais avec une femme instruite comme Hélène, cela n'était peut-être pas convenable. En tout cas, cela pouvait amener celle-ci à croire que certaines railleries dont on l'avait poursuivie étaient fondées, et il ne voulait pas de cela. Ce n'était pas seulement comme jockey qu'il tenait à se montrer dans toute sa gloire. Il parlerait. Cette résolution arrêtée, il ne la mit pas encore à exécution. Maintenant, il lui fallait la réunion de certaines circonstances favorables que la réalité n'arrangeait pas comme lui-même les avait décidées à l'avance. Un jour, on pouvait les déranger. Un autre jour, elle paraissait mal disposée. Le lendemain, c'était lui-même qui n'était pas en train. C'était un vendredi. C'était un 13. La nuit, il avait entendu des chouettes huer dans les greniers des tours. Et il changeait ce qu'il voulait dire. Il l'arrangeait, mettant à la fin ce qui était au commencement, ne gardant rien de ce qui d'abord lui avait paru devoir produire un effet irrésistible. Puis il se le répétait, il se le jouait de façon à n'être pas exposé à rester court. Depuis qu'Hélène avait renoncé à son système de précaution, elle avait l'habitude, pendant l'heure de récréation de l'après-midi, d'aller s'asseoir dans un kiosque rustique construit sur une sorte de petit flot, ou plus justement un petit promontoire au milieu de l'étang. Comme on n'y arrivait que par une étroite chaussée, elle était certaine de ne pas y être surprise et de pouvoir rester là, libre, à lire, à faire ce qu'elle voulait ou à ne rien faire, sans subir les conversations généalogiques de Madame Courtemer ou sans avoir à surveiller Adélaïde qui profitait de ce moment pour soigner les oiseaux de sa volière. C'était le bon temps de sa journée, celui où elle se reprenait, où elle s'appartenait, celui de la rêverie ou celui des souvenirs. Ombragée par un grand saule pleureur qui l'enveloppait dans son feuillage tombant, baignée par les eaux de l'étang toutes couvertes d'herbes aquatiques, l'endroit était vraiment charmant, frais aux yeux, doux à l'esprit et au cœur. Plusieurs fois, depuis qu'elle venait là, elle avait vu Guiscard se diriger vers l'entrée de la chaussée comme s'il avait l'intention de la franchir. Puis, après quelques instants d'hésitation, il avait continué son chemin ou bien il était retourné sur ses pas. Et alors, elle s'était applaudie de sa résolution. Il n'oserait jamais venir jusqu'à elle. Cependant, une après-midi qu'elle était dans son îlot depuis quelques minutes à peine, elle vit venir Guiscard. Il marchait lentement mais d'un pas résolu, la tête basse, en agitant de temps en temps sa main droite un homme qui réfléchit ou qui se parle à lui-même. Elle pouvait d'autant mieux l'observer qu'à travers la chevelure du saule qui tombait en cascade tout autour d'elle, elle voyait et n'était pas vue. Arrivée à l'entrée de la chaussée qui de la terre conduit à l'île, il s'arrêta et elle crut qu'une fois encore il allait passer son chemin. Mais après avoir fait trois pas en arrière, il en fit trois en avant, puis enfin, il se décida à s'engager sur la chaussée. Si bien résolue qu'elle fût, elle n'en éprouva pas moins une poignante émotion. Elle était courte, cette chaussée. Guiscard ne tarda pas à paraître. « Ah, vous êtes là, mademoiselle ? » dit-il en jouant la surprise, mais en la jouant aussi mal que possible. Elle eut une faiblesse, c'est-à-dire que, ne pouvant pas s'échapper comme son premier mouvement le lui conseillait, elle voulut essayer d'arrêter Guiscard en l'intimidant. Ce n'était pas là ce qu'elle avait résolu cependant. « Ne le saviez-vous pas ? » dit-elle. Il resta interdit, rougissant et embarrassé, mais il ne quitta pas la place. Au contraire, après quelques instants, il s'assit sur un banc en face d'Hélène. Elle ne le regardait pas. Pourtant, elle voyait qu'il remuait les lèvres, comme s'il prononçait des mots qu'il se répétait. Il ne la quittait pas des yeux, et de rouge qu'il était quelques secondes auparavant, il était devenu blême, en proie bien manifestement à une émotion qui le paralysait. Ce silence la troublait et l'effrayait. Quoi qu'il dût dire, elle eût mieux aimé qu'il s'expliquât. Mais il se taisait toujours. Tout à coup, elle sentit qu'il se levait, et elle crut qu'il allait s'en aller comme il était venu, n'osant pas parler, ce dont elle ne fut pas très surprise en pensant à sa timidité. Mais elle se trompait. Il se jeta à genoux devant elle, et avant qu'elle pût se défendre, il lui prit les deux mains, qu'il embrassa passionnément. « Oh, Hélène, Hélène !» Elle s'est levée, et elle avait voulu se dégager. Mais il ne lui avait pas abandonné les mains, il s'était traîné à ses genoux. « Ne partez pas. Laissez-moi vous dire que je vous aime, que je vous adore. Vous le voyez bien, vous le savez bien. Mais moi, j'ai besoin de vous le dire. Il y a si longtemps que je veux vous le dire et que ma passion, trop grande, me ferme les lèvres. » Cet aveu ne la prenait pas au dépourvu. Elle avait arrangé ce qu'elle répondrait. « Vous m'aimez ? » dit-elle froidement. « Oh, ne doutez pas de mon amour. » s'écria-t-il en se relevant. « Ce n'est pas un doute que j'aimais, c'est une question que je pose. Après ?» Ce qu'elle avait prévu se réalisa, il fut décontenancé, car il ne s'attendait pas à cette froideur et encore moins à cette interrogation. « Après ? » murmura-t-il. « Après ? Eh bien, après nous ferons ce que vous voudrez. Nous resterons ici si vous le voulez. Si vous voulez quitter la France, nous la quitterons pour aller où vous voudrez. » « Que m'importe à moi, pourvu que nous soyons ensemble, que je vous vois, que je vous aime. »« Après, » répéta-t-elle, « après, ma vie sera à vous. Dans quelques mois, je serai majeur. Et ce ne sera pas une existence de misère que je vous offrirai, mais de luxe, de bien-être, de plaisir, celle que vous voudrez, car je ne vous refuserai jamais rien. Mon cœur, ma fortune, tout sera à vous. »« Tout, votre cœur, votre fortune, Et votre nom, monsieur le comte, vous ne m'en avez point parlé. Je n'aurais pas été un honnête homme si je vous avais fait une promesse que je ne suis pas maître de réaliser présentement. Je ne peux pas me marier sans le consentement de mon père, et vous savez bien qu'il ne me le donnerait pas en ce moment. Et moi, je ne serais pas une honnête femme si je vous demandais cette promesse, comme je ne serais pas une honnête fille si j'écoutais l'aveu de votre amour sans vous dire que je ne vous aime pas et que je ne vous aimerai jamais. Mon Dieu ! Vous m'avez sans doute reconnu bien des qualités puisque vous m'aimez. Pourquoi ne m'avez-vous pas reconnu l'honnêteté ? Vous auriez compris que cet amour dont vous me parlez est un outrage. Je n'ai compris qu'une chose, que nous avions 20 ans l'un et l'autre, que vous étiez la plus belle, la plus charmante des femmes que j'ai jamais vues, que je vous aime et que, vous aimant, je ne peux pas ne pas vous le dire, n'est-ce pas tout naturel ? C'est que justement vous ne devez pas me le dire, car moi je ne dois pas l'entendre et je ne l'entendrai pas. Elle fit 2 pas pour sortir de l'île, mais les timides, une fois qu'ils sont engagés, ont des accès de courage désespérés. Vivement, il lui barra le passage en se plaçant devant elle. « Un mot de plus, » dit-elle, « et je vous jure que je quitte cette maison. Le voulez-vous ? Je veux vous voir, je veux vous parler, je veux vous aimer. Alors vous voulez que je parte ? Vous ne partirez pas, car je vous jure, moi, que où que vous alliez, j'irai. Je vous aime. Alors c'est vous qui me chassez d'ici. »